France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la figure ou des figures au pluriel du prophète de l'islam, à la fois au début, à la naissance de la tradition religieuse islamique et tout au long de l'histoire. Et j'ai plaisir d'accueillir Adrien Dejarmy pour en parler. Adrien Dejarmy, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous, merci de nous donner de votre temps. Vous êtes maître de conférence à l'université de Strasbourg, vous êtes historien, un fin connaisseur des débuts de l'islam, et vous vous êtes intéressé à ces figures, donc nous utilisons le pluriel, du prophète de l'islam. Comment étiez-vous amené d'abord à vous intéresser vous-même, et quelles sont ces figures ?
Oui. Mon intérêt, je dirais, pour le sujet, en fait, est venu très progressivement. Si je dois remonter, en fait, vraiment au début, c'est peut-être un voyage à Séville avec mes parents. Ce qui m'avait amené à m'intéresser d'abord à l'histoire d'Al-Andalus et à me rapprocher d'un enseignant, Cyril Hayet.
Ah oui. Vous avez visité l'Alcazar à,
oui, tout
à Séville.
Fait. Voilà, tout à fait. Donc, puis je suis revenu plusieurs fois ensuite en Andalousie par intérêt personnel. Et puis Cyril Hayet m'avait proposé cette fois de passer en fait le détroit de Gibraltar et d'aller de passer de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est comme ça en fait petit à petit que je me suis intéressé à ce sujet-là et notamment voilà après 2015 il y a eu quand même une prise de conscience de l'intérêt de l'actualité de cette thématique et ça me plaisait beaucoup de voilà tout en étant médiéviste bien sûr et bien d'aborder un sujet qui, je pense, est important et essentiel pour nous aujourd'hui.
C'était dans le tintamarre tumultueux et le vacarme autour de la représentation du prophète. Doit-on le dessiner, représenter, en parler en termes qui le brocardent ou qui le caricaturent, que vous étiez amené à étudier comment tout cela a dû évoluer à travers l'histoire ?
Disons que c'était une envie un peu de prendre le temps de réfléchir, puisque voilà, l'actualité était particulièrement enflammée autour de ce sujet-là ces dernières années. Et voilà, j'avais envie de prendre le temps de m'accorder quelques années pour aborder ce sujet-là en historien, et effectivement pour tenter le plus possible d'historiciser ce sujet-là.
Parce que c'est toujours bon de convoquer le temps long pour aplanir les difficultés du temps présent.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et l'histoire des débuts de l'islam fonctionne de la même manière.
Alors, qu'en est-il justement de ces figures, ou quelle est la figure première ? Comment s'est-elle imposée ? On verra par la suite que dans une forme de légende dorée que sont les curricula vitae du prophète, les fameuses sir, la sira, tout cela s'est construit dans le temps.
Oui, alors je dirais qu'il n'y a pas une figure originelle du prophète. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre d'aspects de figures, mais qui évoluent dans des temporalités différentes et des chronologies différentes. Et c'est tout ça, c'est la difficulté du sujet, c'est qu'il faut sortir de l'approche téléologique pour essayer de comprendre un peu cette diversité. Donc on a bien sûr un prophète combattant, très connu, un prophète législateur dans le domaine du droit et de la jurisprudence islamique, le fiqh. On a un prophète thaumaturge, faiseur de miracles. Et la difficulté, c'est de saisir l'évolution de ces différentes figures dans des contextes variés. Voilà. Et ces figures, elles n'évoluent pas au même rythme, tout simplement parce qu'elles évoluent aussi en fonction de l'histoire, des hommes, et aussi de l'évolution des contextes sociopolitiques et dogmatiques.
Que diriez-vous à ceux qui à tort ou à raison, disent oui, mais la figure du prophète combattant ne s'est imposée que 2 siècles et demi plus tard avec le genre littéraire des livres d'expédition où l'on était en train de magnifier la virilité, la bravoure, le courage. Et de fait, il fallait que le prophète de l'islam fût aussi courageux, combattant, vaillant, etc.
Alors cette épopée, en fait, elle prend forme dans le temps long. On en trouve les traces déjà à l'époque omeyyade. Elle se concrétise à l'époque abbasside pour des raisons variées, notamment le fait que les abbassides se réclament aussi de la famille du prophète, Ahlul Bayt.
Et de son oncle.
Et de son oncle, voilà, Al-Abbas. Mais en fait, on peut remonter bien plus tôt. Un transmetteur de l'époque omeyyade, un savant qui s'appelle Urwa ibn Zubayr, de Médine, transmet, rapporte déjà de nombreux récits des expéditions militaires qu'on appelle El-Marazi. Et puis dans le domaine du droit, la sunna du prophète, de Mohammed, sa parole, est convoquée dans le domaine de la fiscalité. On a des exemples, par exemple des exemples tirés de la bataille de Badr, de Khaybar, qui servent en fait de jurisprudence dans le domaine du droit et de la fiscalité de la guerre, dans le domaine des conquêtes. Et donc c'est là aussi, c'est un petit peu plus compliqué que cela, c'est-à-dire que cette figure du prophète combattant, elle n'est pas la même à l'époque des conquêtes, à la fin de la période omeyyade et à l'époque abbasside.
Nous progressons petit à petit. Déjà, l'appellation elle-même, le nom de Mohammed, est pour certains problématique, puisqu'on dit qu'on n'en trouvait pas dans la péninsule arabique l'usage, hormis un ou deux cas et encore. Est-il un nom qui le caractérisait que lui, presque comme un qualificatif? Puisque Mohammed veut dire en gros le loué, le digne de louange, etc.
Christian Robin, lui, a montré que le nom, en fait, Mohammed existait dans des contextes variés, notamment le contexte chrétien. Donc on a quelques traces qui sont rares, assez rares, c'est vrai, mais elles existent. Donc à partir du moment où elles existent, on ne peut pas les ignorer. Ce qui est un peu plus troublant, plutôt, c'est le sens qu'on donne à ce terme-là, et notamment à la racine, qui a en fait une très longue histoire dans l'histoire des langues sémitiques, la racine Hameda, qu'on trouve, on a des traces de cette racine-là déjà dans les langues, dans les inscriptions ougaritiques, dans la Bible. Le prophète Daniel, par exemple, est qualifié de Ish Hamudot aussi, donc le louangé. Et dans cette double relation qu'il a avec Yahvé, au sens où lorsqu'il est jeté dans la fosse aux lions, il continue d'adresser ses louanges à la divinité, et en retour, il reçoit lui-même, en fait, la bénédiction de Yahvé. Et c'est ce sens-là, effectivement, c'est plutôt dans ce contexte-là qu'on peut comprendre que peut-être ce nom-là lui aurait été attribué après, dans une longue histoire, en fait, des prophètes. Mais il est impossible, en fait, de l'affirmer avec certitude.
Et donc, je ne résiste pas à vous poser la énième question sur la controverse autour du paraclet. Est-il paraclet Esprit Saint ou paraclétos le loué, qui, entre théologiens musulmans et chrétiens, très tôt, peut-être dans la dernière phase ou la dernière période de la dynastie omeyyade, a opposé dans des polémiques ou certaines controverses entre théologiens musulmans et théologiens chrétiens sur le sens même du paraclet.
Oui, alors là, je pense qu'on est en fait dans un domaine qui est différent, celui de la controverse entre savants musulmans et chrétiens à la fin de la période omeyyade, et notamment, alors il y a... Je pense aussi à la controverse avec Jean Damascène, par exemple, grand savant aussi de cette époque-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les savants musulmans, par un jeu d'association, en fait, comparent la figure de Mohammed au paraclet, mais on n'a pas, je dirais, de traces très très anciennes de cette comparaison-là au début de la période. Elle apparaît plus tard, à un moment où, en fait, on a des théologiens musulmans. C'est-à-dire un moment où l'islam s'est déjà structuré et commence à avoir une théologie, voilà, mais pas avant.
Alors, avant d'aborder ce qu'on pourrait appeler une prophétisation du droit et de la tradition prophétique elle-même, qu'en est-il aussi de la mobilisation du comportement du prophète lui-même, comme il n'a été suscité que comme miséricorde pour les univers, et il n'est là que pour parachever la noblesse de la vertu?
On parle aussi beaucoup du prophète de Mohammed, mais il faut peut-être avoir une idée un peu du paysage global à cette période-là, en tout cas au 1er et au 2e siècle. C'est-à-dire que Mohammed est pendant longtemps une autorité parmi d'autres en termes de comportement, notamment à côté des compagnons, Sahaba. Hein, donc il y a la sunna de Mohammed, mais il y a aussi la sunna d'Omar, la sunna de Abu Bakr, de Othman.
Sunna, pour nos amis auditeurs, est une forme de tradition.
Oui, alors je vais repréciser peut-être un petit peu. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tendance à associer sunna et hadith, mais il faut bien prendre le temps de distinguer les deux. Le hadith est une méthode. C'est une méthode qui apparaît en Irak, au 2e siècle.
De l'Égypte.
Et l'objectif de cette méthode, en fait, pour les savants irakiens, c'est d'authentifier une parole, pour que cette parole puisse faire autorité. Donc, les savants irakiens de Koufa et Basra, avant la fondation de Bagdad, hein, commencent à attacher des chaînes de transmetteurs, qu'on appelle isnad, asanid au pluriel, à des textes matn. La sunna, donc, enfin, le hadith, c'est un concept, en fait, qui naît vraiment en Irak à ce moment-là et qui est adopté petit à petit. La sunna, c'est un concept qui existe avant l'islam. Il y a des sunnas de personnages pré-islamiques. Donc, au moment où Mohammed, effectivement...
Il y a même des sunnas divines.
Des sunnas divines, il y a la sunna, tout à fait, il y a la sunna de Dieu, tout à fait. Mais ce qui se passe, le phénomène qui se passe à partir du 2e siècle de l'Égypte, face à la pression des savants irakiens qui ont de plus en plus de poids, eh bien, la sunna du prophète, qui est réduite encore à un certain nombre de domaines précis, eh bien, se fond dans le hadith. Et c'est ce qui arrive ensuite au 3e siècle de l'Égypte, avec la mise par écrit des grands recueils de hadith. C'est qu'au 3e siècle, ensuite, on associe hadith et sunna.
Et c'est pour ça qu'on parle de traditionnistes, qu'il ne faut pas confondre avec les traditionalistes.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, tout à fait, très juste.
Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, à cette prophétisation du droit. Quel est le concept derrière? C'est-à-dire qu'on a des législations qui trouvent son fondement dans tel ou tel comportement du prophète, une parole, un silence devant une situation, quelque chose de cet ordre.
Il y a tout un tas de cas de figure, en fait. Il y a déjà tout simplement des cas de figure où la parole du prophète, une sunna, peut être plus ou moins attestée de manière assez tôt. Par exemple, à Médine notamment, il y a assez tôt, au 1er siècle de l'Égypte, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu analyser dans mon travail, des moments où les savants musulmans se fondent sur la sunna du prophète, notamment dans le domaine de la fiscalité de la guerre, ou aussi d'un certain nombre de rituels, les ibadat, donc la manière de prier, ou aussi de procéder aux ablutions rituelles. Et donc, ce qu'on appelle prophétisation de la sunna, à ce moment-là, c'est le fait d'attacher à cette parole-là une chaîne. Et cette chaîne, souvent, elle est rattachée par des savants irakiens, en fait. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Un autre cas de figure, qui est en fait plus récurrent, qu'on trouve plus souvent, c'est lorsque une position, une parole est d'abord attribuée à un personnage d'une génération ultérieure, et notamment de la génération des successeurs, qu'on appelle At-Tabi'un, des traditionnistes ou des savants, parfois même des juristes, qui ont été en contact avec des compagnons, c'est ça qu'on les appelle les successeurs. Cette parole-là, elle est d'abord dans la bouche d'un successeur avant d'être ensuite réattribuée à un compagnon et enfin à Mohammed, afin effectivement de l'emporter dans un jeu de controverses entre savants de Médine, de Basra, de Koufa ou même du Yémen parfois. Donc là, on a un travail plutôt de réattribution, rétroattribution de la parole.
Quel est l'arbitre en cas de controverse pour trancher? Est-ce un argument d'autorité ou on convoque, encore une fois, la parole prophétique pour donner du poids à ses positions et militer dans le sens souhaité?
Alors, ceux qu'on appelle, enfin, que vous avez appelés les traditionalistes, eux jouent sur l'argument d'autorité, beaucoup. On peut dire qu'il y a un moment charnière autour de ça. Alors, cet argument d'autorité, de faire appel au prophète, il y a vraiment un temps à partir de la période abbasside, on le voit vraiment. Dans l'analyse en fait des chaînes, tout simplement, on voit que le prophète commence à être beaucoup plus convoqué à partir des années 750, 60, 70. Et le deuxième temps, c'est après la Risala d'Ash-Shafi'i.
L'épître de Shafi'i, lui qui est mort en 820.
Voilà, tout à fait, et qui donne en fait un poids immense à la parole de Mohammed. Parfois même, il lui donne un poids supérieur même au Coran, dans certains cas de figure. Et là, pareil, on voit un deuxième temps où voilà, les chaînes qui remontent au prophète dans ces sujets-là se multiplient fortement. Voilà, donc c'est dans ces deux temps vraiment que les choses se jouent.
Ce qui expliquerait, mais pardonnez-moi, je fais un peu un va-et-vient entre les débuts et même l'ère abbasside, et on est au milieu du 8e siècle et au-delà, en tout cas en seconde moitié du 8e siècle, et maintenant avec le mouvement des coranistes, ceux qui disent « seul le Coran m'oblige », et donc toute cette construction humaine autour de la prophétisation à la fois du droit, du fisc et cette inflation même des aphorismes et des maximes du prophète, comme il y a l'élément humain, on peut la laisser de côté.
Alors ça, c'est effectivement ce que mettent en avant voilà les coranistes. Mais en même temps, voilà, on revient à cette question qui est souvent une question assez essentialisante, qui est qu'est-ce que l'islam ? Est-ce que l'islam, c'est le Coran ? Est-ce que c'est la parole du prophète ? Est-ce que c'est le hadith ? Et c'est un peu tout à la fois, puisque c'est un mouvement aussi humain, il faut le rappeler.
Une longue construction humaine.
Et on a ces débats également aussi avec le soufisme, autour de la question des saints. Qu'est-ce qu'il faut intégrer ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas intégrer ? Et le rôle de l'historien, ce n'est pas tant de dire ce qu'est la norme, mais de dire comment cette norme s'est construite. Et c'est là le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que ce qui m'intéresse en tant qu'historien, ce n'est pas tant la question de l'authenticité, mais de l'autorité. À quel moment une parole fait autorité ? Comment fait-elle autorité ? Dans quel contexte ?
Parfois, il y a l'autorité du Coran seul, l'autorité du Coran avec la parole prophétique, et parfois, c'est l'autorité de la parole du prophète seul.
Oui, et puis, en fait, les deux sont beaucoup en conversation aussi, c'est-à-dire que le hadith est bien sûr imbibé de paroles coraniques, et le hadith lui-même souvent commente en fait le Coran, prend appui dessus. On le voit dans la tradition des commentaires du Coran, le tafsir aussi. L'exégèse ou le commentaire fonctionnent selon les mêmes règles en fait que le droit. C'est-à-dire que de cette même manière, les savants musulmans proposent différentes interprétations des versets du Coran. Ils attribuent ces interprétations à ces textes des chaînes. Et puis ensuite, les débats, les controverses font qu'une lecture ou une autre va parfois aussi l'emporter. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est intéressant, qui est important à noter, c'est que les logiques qui viennent du droit et qui ont structuré le hadith s'étendent en fait à d'autres domaines que le droit à proprement parler, à l'exégèse et aussi bien sûr à l'historiographie, la sirah et les marazi. Mais c'est d'abord dans le droit que ça se joue.
Pour nos amis auditeurs, la Sirah, je crois, qui se sont habitués, c'est un peu la biographie du prophète. Les Marazi, c'est un terme générique pluriel qui veut dire les expéditions
ou
les campagnes militaires.
Tout à fait, et qui, au début, lorsqu'elles sont mises par écrit, ne sont pas limitées, encore une fois, aux expéditions militaires de Mohammed.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons des figures du prophète de l'islam du début et tout au long de l'histoire, un peu comment cette figure a été sacralisée et comment la construction humaine du fait islamique a laissé cette place centrale au prophète avec Adrien de Jarmy. Et pour cette deuxième partie, cher Adrien de Jarny, qu'en est-il de cette fameuse christianisation, le mot peut-être entre guillemets, de la figure du prophète, parce que de par le contact avec des populations chrétiennes, les musulmans se sont dit, tiens, nos voisins ou compatriotes désormais chrétiens ont la figure du Christ, si vénéré, adulé et adoré, nous avons la figure de Mohammed, et c'est un peu le pendant.
Alors, comme toute comparaison, elle a forcément
ses limites.
Ses limites. La comparaison se justifie dans certains cas, notamment dans les récits de miracles. Par exemple, là, la comparaison est assez visible, et des récits qui entrent en circulation et font autorité, surtout à l'époque abbasside. Voilà. Je pense notamment aux récits de nature thaumaturgique. Voilà. Donc, on a des récits où le prophète guérit la cécité des compagnons. Des récits aussi où le prophète fait surgir effectivement de l'eau d'un rocher. Voyez. Donc tous ces récits qui sont assez frappants quand même, c'est vrai pour l'historien, et nous apparaissent comme des réactualisations, des réécritures d'un certain nombre eh bien, de récits et de miracles qui pourraient être attribués effectivement à Jésus. Mais au-delà de ça, la comparaison a quand même ses limites. Déjà, du point de vue eh bien, du concept de prophète qui est mobilisé, Mohammed est un prophète qui est très différent quand même de celui de Jésus, ne serait-ce que dans l'appellation, les termes, la façon dont on le nomme, Rasoul.
Hein, envoyé.
Envoyé, tout à fait. Et donc ce concept qui est pour le coup proprement...
Ou messager,
mais qui est en tout cas la racine, Rasala, envoyé, est proprement arabe. Alors il y a des débats pour déterminer si c'est une racine qui vient plutôt du nord ou du sud, qui est plutôt yéménite ou plutôt de l'Arabie du Nord, mais dans tous les cas, ce n'est pas une racine sémitique au sens où on ne la trouve pas dans la Bible. Et le sens qui est donné est assez différent. Le sens de Rasoul, de Rasala, c'est un sens actif. Donc c'est le sens d'un envoyé qui va prêcher activement sur le chemin de Dieu, fisabilillah en arabe, et qui va mener aussi avec lui eh bien, le djihad quand même. Ça, c'est une particularité assez spécifique quand même du prophète Mohammed, et dont on a des traces très anciennes, ne serait-ce que dans le Coran. Lorsque Mohammed est nommé explicitement, que son nom apparaît, eh bien, il est toujours qualifié de Rasoul. Voilà.
Son nom dans le Coran est très parcimonieux aussi.
Oui, bon, tout à fait.
Et alors, ceci n'allait pas contredire l'idée que le prophète, finalement, n'est qu'un mortel parmi les mortels, qu'il n'est pas un thaumaturge, faiseur de miracles, que son seul miracle serait, j'utilise par précaution le conditionnel, que le Coran, et que toute cette inflation, encore une fois, sur du récit de la chevauchée nocturne, de l'ascension céleste, n'est qu'une stratification d'hommes cherchant le merveilleux, le fabuleux, l'extraordinaire.
Alors, il y a une fonction derrière ces récits, en fait. Comme ces récits, ils n'apparaissent pas, ils n'entrent pas en circulation, par hasard. Et ils entrent en circulation souvent dans le cadre de controverses, à nouveau. Alors, je reviens à Jean Damascène, dont j'ai parlé. Et Jean Damascène, il attaque assez sèchement les musulmans. Il leur dit, donc, dans ses... L'islam est la 101e hérésie. Il dit que Mohammed ne peut pas être un prophète puisqu'il n'a pas fait de miracle. Et ça ne tombe pas dans l'oreille
d'un sourd,
tout à fait.
D'un théologien sourd.
Et on voit 20, 30, 40 ans après apparaître ces récits qui miment quand même assez fortement les miracles de Jésus. Mais il y a d'autres aspects aussi, je dirais, de cette figure-là. Je pense notamment aux récits de la théophanie, c'est-à-dire de la rencontre entre Mohammed et la divinité, qui ne sont pas tout à fait des miracles, mais dans un autre domaine, mais qui sont tout de même des récits surnaturels. Et vous avez parlé du Mi'raj et de l'Isra, donc enfin la chevauchée nocturne et l'ascension. Et alors moi, ce que j'ai plutôt, analysé dans ma thèse, c'est que j'ai noté que ces récits entraient en circulation dans un cadre un peu différent, dans la ville on les voit apparaître d'abord dans la ville de Basra, donc en Irak, une ville qui est marquée aussi par une forte communauté juive à cette époque-là, et ils apparaissent dans la bouche d'un transmetteur unique qui s'appelle Anas ibn Malik, voilà, qui est connu pour un certain nombre de choses, notamment transmetteur voilà de ces récits du Mi'raj et de l'Isra. Et dans ce contexte, on est dans un contexte un peu différent, puisque la ville de Basra, eh bien, dans cette ville-là, les savants musulmans sont en contact avec des juifs de la Kabbale aussi juive, et en Irak, un siècle avant, entre en circulation, un ou deux siècles avant, on n'est pas tout à fait sûr, entre en circulation des récits de l'Ascension aussi.
En comparaison avec l'échelle d'Ézéchiel.
Oui, alors plutôt, là, le récit auquel je pensais, c'est plutôt le récit de l'élévation d'un rabbin par l'archange Métatron, et dans lequel ce rabbin, en fait, passe tout un ensemble d'épreuves pour atteindre, en fait, la divinité. Et les récits le récit du Mi'raj, à un certain point...
encore une fois, c'est l'Ascension.
C'est l'Ascension, oui. Voilà, tout à fait, à un certain nombre de points communs. Et ce récit a une fonction, c'est tout de même l'apprentissage de la prière. Et donc ce récit n'est pas là, je dirais, simplement pour agrémenter la sira du prophète de belles anecdotes, mais il est là aussi pour expliquer comment la prière a été enseignée à Muhammad par son contact avec la divinité et son contact aussi avec Moïse. Puisque juste avant de rencontrer Dieu, ou de rencontrer Dieu, il rencontre Moïse quand même.
Et il négocie, il n'y a pas d'autre terme,
tout à fait.
avec Moïse qui lui suggère d'aller négocier le fait de diminuer le nombre d'unités de prière parce que ça serait trop lourd pour la communauté et donc les fidèles ne vont pas observer la prière si elle était trop lourde.
Tout à fait. Donc alors là, les récits aussi divergent. Selon certains récits, donc Dieu aurait prescrit plutôt une centaine de prières par jour, et puis on revient après au chiffre voilà de 5, ce qui semble plus faisable aussi.
Vous avez évoqué cette théophanie ou cette rencontre au caractère elliptique du Coran sur ce sujet, puisqu'on n'a que deux passages. Le premier, c'est celui du verset 1 de la sourate 17, justement, qui est « Gloire à celui qui fit transporter son adorateur serviteur de nuit de l'oratoire consacré à la mosquée éloignée afin de lui montrer certains de nos signes dont nous avons bénit les alentours. Mmh. Et puis l'autre passage qui consiste à dire « Lorsqu'il s'est tenu à une distance de 2 portées d'arc au moins, au plus proche encore, son regard n'a ni dévié ni soutenu. » Et là, c'est sous-entendu qu'on est, en utilisant des termes techniques, qu'il y a le tapis de la familiarité et on s'est tenu, enfin le prophète se serait tenu à une distance dite le tapis de la familiarité.
Alors là, on rentre déjà dans l'interprétation du texte. Et c'est, je pense, le rôle de l'historien de faire un petit peu un pas de côté, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans mon travail, j'ai proposé une interprétation du texte coranique, mais j'ai essayé plutôt de déterminer quelle était l'histoire de ces interprétations.
Et les différentes interprétations.
Et là, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est-à-dire que dans les tout premiers commentaires du Coran, tout premier tafsir, eh bien, le début de la sourate Al-Isra n'apparaît pas et n'est pas commenté. Et la sourate a un autre nom, qu'on trouve aussi encore parfois, elle est appelée la sourate des Banu Israël. Certainement, tous les savants musulmans n'avaient pas connaissance de ce verset-là au même moment. Voilà, sans rentrer, j'irais, dans les débats qui sont plus compliqués de ceux de la canonisation du texte coranique, mais en tout cas, les commentateurs du Coran ne commentent pas tous les versets de la même manière, et quand on remonte très loin dans le temps, ne connaissent pas tous, en tout cas, les mêmes versets.
Que diriez-vous, Adrien de Jarmy, de ceux qui disent l'islamologie contemporaine, l'islamologie savante, dit qu'à propos du prophète, on n'a qu'une ombre dans un nuage d'encens, alors qu'il y a une telle prolixité et une effusion d'écriture, une prolifération littéraire dans les différentes siras, et dont certaines de ces biographies ont été plutôt des commandes, ou en tout cas, il y avait un usage politique et parfois sur ordre du prince, d'avoir tel ou tel aspect du prophète pour qu'on le mobilise plus tard.
Oui, alors, cette mobilisation politique, la figure de Muhammad, elle est très visible eh bien, dans le processus d'écriture de la Sira, hein, d'Ibn Ishaq. Pour rappel peut-être aux auditeurs, nous n'avons pas le texte d'Ibn Ishaq, nous n'avons qu'une recension de recension.
De son disciple.
Alors nous n'avons même pas la recension de ses disciples, nous avons la recension d'Ibn Hisham, qui est un traditionniste de la ville de Basra, qui ensuite a trouvé...
Qui est mort en 832.
Voilà, alors 832-833 en Égypte. Et puis on a des bouts aussi de recension chez Tabari, qui est ce grand chroniqueur et commentateur du Coran et juriste de l'époque abbasside.
Qui, lui, est mort en 923.
923, tout à fait, à Bagdad. Mais quand on remonte aussi encore un peu plus loin dans le temps, au 1er et au 2e siècle, en fait, on voit également aussi des usages politiques, mais simplement, on ne va pas avoir de commande, de récit. On peut dire que l'État n'est pas encore ce pouvoir de mécénat, peut-être pas à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des récits qui sont plus favorables aux Omeyyades que d'autres, par exemple. Et je peux en prendre un, ce sont les récits qui affirment que Muhammad est bien mort. Voilà. Il y a une controverse très importante dans les décennies qui suivent la mort de Muhammad, c'est une controverse autour des espoirs messianiques. Est-ce que Muhammad va-t-il revenir ?
Y a-t-il eu une occultation ? Était-il rappelé vivant auprès de Dieu ?
Oui, alors là, c'est presque une interprétation chiite, presque même de la figure, mais si on monte même avant, je dirais, voilà, les lectures ésotériques du chiisme, il y a ce débat, il y a un hadith, une tradition qui est mise dans la bouche, attribuée en tout cas à Omar, et dans lequel Omar refuse la mort de Muhammad et annonce qu'il reviendra dans 40 jours pour châtier les hypocrites, al-Muna Afiqun, et les méchants. Et en fait, cette tradition, elle est modelée aussi sur le récit du veau d'or dans la Bible, où Moïse, eh bien, part, voilà, pour récupérer les tables de la loi, et puis, à un moment, au retour, eh bien, en fait, les Israéliens, les Hébreux, se sont mis à vénérer le veau d'or. Et donc, il y a cette référence-là. Et là, ça pose un problème fort, puisque si les premiers croyants, l'Oumma, est dans l'attente d'un retour de Muhammad, eh bien, cela fragilise la succession, effectivement, du pouvoir. Et il y a la nécessité, du coup, de mettre en circulation un contre-récit.
Voilà. D'autant plus que le pouvoir est devenu héréditaire, c'est dynastique.
Surtout, voilà, tout à fait, à partir de l'époque Omeyyade, Mouawiya, le pouvoir est devenu héréditaire, dynastique, vous le dites tout à fait très bien. Et du coup, effectivement, le pouvoir est quand même tout de même assez fragile à cette époque-là. Et il y a la nécessité de mettre en circulation des contre-récits qui affirment que Muhammad est bien mort. Voilà. Mais encore faut-il, après, eh bien, lui trouver une place, lui donner une place. Et cette place, je crois qu'elle est trouvée durant le califat de Abdelmalik. Lorsqu'on s'intéresse aux inscriptions du Dôme du Rocher, qui ont été étudiées par mon directeur Mathieu Tillier, eh bien, on voit que pour la première fois, le nom de Muhammad est associé à un autre mot, le mot d'intercession, Shafa. Cette idée que Muhammad est un intercesseur pour les croyants au jour du jugement dernier. Et effectivement, cette place-là, même si Muhammad est mort, eh bien, ce vide-là, il est rempli, à mon avis, à l'époque du califat de Abdelmalik, lorsqu'on lui redonne cette capacité d'intercession qui était perdue à sa mort, mais qui existait peut-être de son vivant d'une autre manière.
Et ce qui pose la question des différents saints, ou le culte des saints, si on utilise ce terme, et la controverse quant à leur propre intercession, puisque l'unique intercesseur, ce n'est que le prophète lui-même.
Oui, tout à fait. Et alors... À ce propos-là, on trouve des traditions où certains compagnons ou même des personnages de la génération des successeurs agissent comme intercesseurs. Je pense à un personnage qui s'appelle Ibn al-Ash'ath, qui était en fait un général omeyyade et qui a mené une révolte contre le califat de Abd al-Malik. Et à sa mort, les Syriens, enfin la tradition islamique rapporte que les Syriens étaient très peinés puisqu'ils estimaient que sa mort les avait coupés du ciel. Et cette tradition, cette parole-là, avec le verbe « inqata », c'est-à-dire
couper,
voilà, couper, se couper, réfléchi passif, eh bien cette capacité, elle était aussi attribuée à Muhammad. Donc, il y a un enjeu à ce moment-là aussi d'attribuer, de réattribuer cette capacité au prophète, spécifiquement au prophète, pour éviter effectivement eh bien, la compétition autour du pouvoir.
Et le surnombre des différents intercesseurs et qui pourraient jouer un rôle, cette fois-ci mobilisateur, et potentiellement des prétendants au pouvoir avec une collusion du temporel et du spirituel.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut avoir, je crois, en tête pour cette période-là, c'est que les deux sont toujours liés. Pas vraiment de surprise à ce point-là. Je veux dire, c'est le cas aussi pendant très longtemps dans l'histoire européenne médiévale. Mais effectivement, la question de la succession et de la stabilité du pouvoir, la succession du pouvoir est fortement liée aux enjeux dogmatiques, en fait.
Et cette même mobilisation de la figure du prophète, ça sera illustré par la prise du pouvoir en 750 des Abbassides.
Oui, qui d'ailleurs... disons, dans les années qui précèdent leur prise de pouvoir, ne sont pas tout à fait très claires dans leur relation aussi avec les Alides.
Les partisans
d'Ali ibn Abi Talib et de ses descendants, et jouent en fait sur cette ambiguïté, en fait, pendant quelques années. Et au moment de leur prise de pouvoir, eh bien, une des premières choses que font les premiers califes abbassides, et je pense notamment aussi à Al-Mansour un petit peu après, eh bien, ils pacifient les régions, ils repacifient l'Irak, et ils font un peu ce qu'ont fait les Omeyyades aussi avant eux, de ce point de vue-là.
Ce que d'aucuns disent qu'on avait fait miroiter aux chiites, pour utiliser le terme consacré, qu'ils allaient leur donner droit. Et après, ils étaient, si vous me pardonnez le terme, blackboulés au bout de quelques temps très courts.
Oui, tout à fait. Et très rapidement aussi, le pouvoir abbasside se fait le mécène ensuite de la mise par écrit des récits de la vie du prophète à travers la rédaction de la Sira, je pense aussi, et de tout un tas de récits dans lesquels le prophète va petit à petit prendre la forme du calife abbasside. Je pense notamment aux récits qui insistent sur les relations diplomatiques entre Mohammed et les souverains du Proche-Orient, des récits aussi qui décrivent ses parures, sa manière de s'habiller, de se vêtir. Vous voyez toutes ces choses qui miment, en fait, petit à petit, la cour du califat abbasside.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Adrien Dejarmy, historien des débuts de l'islam et maître de conférences à l'Université de Strasbourg, nous parlons des différentes figures du prophète de l'islam, d'abord dans les premiers temps de l'islam et tout au long de l'histoire. Pour cette dernière partie, cher Adrien Dejarmy, qu'en est-il cette fois-ci de, chez les soufis particulièrement et les mystiques, de la niche prophétique, le tabernacle des lumières, la lumière mohammadienne, qui est aussi tout un sujet de méditation chez les mystiques?
Oui, alors je pense qu'il faudrait poser la question aussi à Denis Grill, que je crois que vous avez reçu aussi, qui connaît très très bien la question, mais sur le concept de lumière mohammadienne, de Nour Mohammad, je crois qu'il trouve en tout cas ses origines dans les récits de l'enfance de Mohammad. Voilà. Il y a notamment cet épisode qui est très célèbre, où effectivement à la naissance de Mohammed, une lumière aurait illuminé le Proche-Orient jusqu'au château de Syrie. Je pense aussi à un deuxième récit, le récit de l'ouverture de la poitrine du prophète. Et ces récits, eh bien, avant...
Pour lui laver son cœur de tout péché.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ces récits apparaissent à l'époque abbasside. Les chaînes remontent à Ibn Ishaq, quasiment toutes. Et pour le dire, même Ibn Ishaq ne prend pas la peine de citer d'autorités plus anciennes que lui à ce moment-là. Et on a une époque qu'on pourrait qualifier, voilà, le 8e, début du 9e siècle, de peut-être proto-soufisme, c'est-à-dire un moment où on a des savants qui de plus en plus adoptent des pratiques, qu'on pourrait aussi, voilà, se range du côté de la mystique, et je pense à un personnage assez important des tout débuts de cette période-là, avant le soufisme, Hassan el-Basri, voilà, personnage, une autorité.
Le maître de Bassora.
Tout à fait, le maître de Bassora, qui lui est un maillon important dans la transmission aussi de ses récits plus tard. Donc, je dirais aussi que la fin du 8e et le 9e siècle ensuite est un moment important pour la structuration de ces récits qui sont ensuite, au moment de la structuration du soufisme plus tard, avec la naissance des confréries, des talqats, au 12e, 13e, 14e siècle, eh bien, ces récits ensuite sont là. Ils ont été mis par écrit dans la Sira et ils sont réinterprétés, relus dans un contexte différent, ensuite qui est le contexte des confréries soufis du milieu de la période médiévale. Voilà.
Et puis tout un genre littéraire et surtout poétique qui est le panégyrique du prophète, notamment avec le poème sur comment pourrait-on traduire la burda comme une sorte de froc ou de tenue ou de manteau du prophète. Et c'est ainsi qu'on loue ses qualités intrinsèques.
Alors on loue ses qualités à travers la poésie, c'est vrai. Alors la Sira elle-même contient en fait un certain nombre de poèmes dont une partie est attribuée à Hassan ibn Thabit, voilà.
Le porte-parole du prophète,
prophète, voilà. Mais pas seulement, en fait. C'est-à-dire que la plus souvent, la fin de la biographie du prophète, la Sira, mais aussi dans les dictionnaires biographiques qu'on appelle les tabaqat, après le récit de la mort du prophète, eh bien, les traditionnistes, les savants font souvent la liste des qualités du prophète et rédigent des chapitres qui sont tout entiers dévolus à cela.
Des portiques.
Voilà. Et c'est cela qui est assez intéressant, c'est que le prophète est toujours décrit, je dirais presque, par la négative. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Vous voyez, il
a une approche apophatique des qualités du prophète.
Oui.
Donc on dit ce qu'il n'est pas au lieu de dire ce qu'il est.
Tout à fait, tout à fait. Et là, on peut identifier cela en partie à une volonté peut-être de décrire sans trop dire, et aussi puisque cette figure se sacralise petit à petit, on est presque déjà dans le domaine de la représentation, il faut trouver un moyen de représenter sans représenter, tout simplement. Voilà.
Et pourtant, le sujet revient tout le temps, il a été représenté dans les miniatures persanes, miniatures persanes safavides, et les miniatures ottomanes, les miniatures moghols.
Ilkhanides aussi. Ça commence beaucoup au XIVe siècle aussi, les premières miniatures, tout à fait. Et là, on est dans un contexte qui est entièrement différent, qui est le contexte de l'Iran, donc Ilkhanides, puis safavides. Et alors, ces miniatures, je dirais que le moment de leur plus grande diffusion, c'est... 15, 16e, 17e siècle, et ensuite elles ont tendance à baisser progressivement à l'époque ottomane, et nous n'avons pas tout à fait encore les réponses sur cette question-là. Peut-être pour des questions mystiques, mais il faudrait que quelqu'un en tout cas s'attaque au sujet pour déterminer les raisons de cette baisse progressive des représentations de Mohammed à l'époque ottomane.
Ou parfois, lorsque elle perdure sur ordre de je ne sais trop qui, on efface sa figure dans la fameuse mandorle et on la remplace par une flamme.
Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. On peut penser notamment aux enluminures des manuscrits de Topkapı, notamment qui suivent souvent ce modèle-là. Et c'est vrai qu'il y a une progressivité, en fait. Vous avez raison. Le prophète continue d'être représenté sans le visage avant, petit à petit, de décliner encore plus. Voilà.
Est-ce révélateur d'une forme d'aniconisme d'une manière générale qui a toujours existé ou qui a été rival de l'autre parti où il y avait une sorte d'iconophilie, comme disent certains, pas nécessairement pour le prophète, ou c'est ainsi parce que l'art connaît parfois un apogée, puis il décline sur tel ou tel sujet.
Alors la question est assez compliquée parce que le sujet n'est jamais abordé tel quel en fait. Les savants musulmans n'abordent pas le sujet directement. Il est vrai qu'il y a une forte tradition aniconique, on voit dans les stucs des mosquées, etc. Mais je ne pense pas que ça soit uniquement la seule raison à mon avis. Il y a certainement des raisons de contexte. Peut-être on peut aussi penser que la figure de Mohammed ait été voilée pour des questions effectivement de rapport aussi de connexion mystique avec cette figure-là. Et là, on rentre dans une lecture qui est un petit peu différente, qui est moins une lecture, l'idée de la répression, de la punition, mais plutôt en fait d'une relation qui est différente en fait avec le personnage. Le vrai moment, le moment vraiment où le sujet commence à faire débat, c'est le XXe siècle en fait. C'est le XXe siècle. Et c'est avec le cinéma.
Donc, oui.
C'est quelque chose de tout à fait différent. Il y a un premier film, alors il faudrait revenir pour ça l'ouvrage de Christian Gruber qui a fait un ouvrage sur les représentations du prophète. Et dans les années 20, il y a une première tentative de réaliser un film sur Mohammed qui est assez mal reçu. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le film Risala que vous connaissez.
Le message.
Le message, tout à fait, le message qui a été tourné à la fois dans une version anglophone et une version arabe. Et donc Mustapha, voilà, Kad, qui réalise le film, demande comment dire, l'autorisation et les conseils, la fatwa des savants d'Al-Azhar, mais aussi des savants chiites du Liban. Et l'autorisation est accordée, mais à condition de ne plus représenter de ne pas représenter Mohammed à l'écran. Et là, on a un cas de jurisprudence, peut-être un petit peu, je peux dire, qui est véritablement attesté. C'est-à-dire, on a une position qui est véritablement attestée, on n'est plus dans l'interprétation.
Oui. Et qui est l'argument qui sous-tend cette jurisprudence ou cette fatwa ou cet avis, c'est aucun acteur n'est digne où on est capable de rendre le personnage prophétique.
Oui, alors moi, en tant qu'historien, j'aurais tendance aussi à essayer de contextualiser un petit peu la question, c'est-à-dire que le film sort dans la deuxième partie des années 70, et en Égypte, on est à un moment qui est très différent, alors d'autres personnes seraient certainement mieux qualifiées que moi pour en parler, mais terminée l'époque de Nasser, on arrive à la période de Sadat, où une certaine forme de liberté est accordée aux frères musulmans, en partie, notamment à travers les syndicats étudiants, qui ont la main sur les universités, et la question devient beaucoup plus en fait complexe et tendue à ce moment-là. Voilà.
Oui, ce qui sous-entend que dans un autre contexte, un peu plus libéral, on aurait trouvé un bon acteur et un bel acteur qui représenterait le prophète.
Oui, alors après, il faut toujours peut-être aussi faire un petit peu attention quand on parle de contexte libéral. Par exemple, en Iran, les représentations de Mohammed sont beaucoup plus tolérées. Bon, ne serait-ce que parce que sa relation... ce qui importe, c'est beaucoup sa relation avec Ali.
Oui.
Mais on n'est pas du tout dans un contexte libéral, et pourtant, les représentations sont aussi tolérées.
Et pourtant, une carte postale datant des années 1929 exactement, circulait jusqu'à après la révolution dite khomeiniste.
Oui, tout à fait. Donc,
une carte postale représentant Mohammed.
Oui, tout à fait. Et puis Mohammed, et puis bien sûr, je pense même aussi à Ali, qui n'est pas représenté également dans le film, hein, Et lorsque les musulmans chiites donc vont en pèlerinage à Karbala, etc., ils reviennent très souvent aussi avec des petites représentations. Donc, pourtant, on peut pas dire que l'Irak, et encore moins l'Iran, soient des sociétés libérales au sens où on les entend, nous, ici. Donc, tout dépend vraiment du contexte.
Peut-être, puisque nous nous approchons du terme de l'émission, et tout en vous remerciant, Adrien Dejarmy, qu'en est-il cette fois-ci de tout le débat de considérer que le corpus second, donc aphorisme, maxime, parole, donc le hadith, est à 90% apocryphe.
Oui, alors là, on rentre à nouveau dans la question qui est celle de l'authenticité. Et lorsqu'on parle d'apocryphe, alors effectivement, l'idée, c'est derrière de définir ce qui est authentique et ce qui remonte véritablement à Mohammed. Alors moi, j'ai choisi de ne pas répondre à cette question, tout simplement parce que aussi la quête des origines infinies, pour l'historien, c'est un peu un piège, et qu'elle a été aussi beaucoup abordée quand même pendant 120 ans maintenant, depuis en fait la publication des Mohammedani Studien de Ignaz Goldziher. Donc depuis 1890, en fait, les historiens et les islamologues débattent de cette question-là. Et moi, j'ai pris le parti du coup de m'intéresser plutôt à la question de l'autorité. Pour justement aborder avec sérieux la question de la construction des figures prophétiques. Sinon, le risque, c'est de retomber perpétuellement vers la recherche de cette quête des origines, du personnage historique, des paroles qui ont été véritablement dites, etc. Et à mon avis, à moins qu'on trouve d'autres sources, il y a toute la papyrologie à explorer, il y aura des choses, etc.
La codicologie aussi.
Etc. Mais à ce niveau-là de nos recherches, moi, je pense qu'il faut faire attention un peu, et il faut parfois oser poser d'autres questions et recentrer un peu le débat.
Tant que la manipulation ou l'instrumentalisation ou la domestication de cette parole n'a pas d'effet négatif, voire mortifère, peut-être, mais lorsqu'on attribue au prophète des paroles qui justifient l'innommable, ça devient problématique.
Ah oui, ça devient problématique, mais tout dépend de ce que les musulmans et les savants musulmans d'aujourd'hui veulent instituer comme norme. Si on remonte à Shafi'i estime qu'une parole du prophète faible, daif, est toujours mieux qu'une parole d'un compagnon, d'autres choses, etc. Donc tout dépend à la fin des normes que l'on veut instituer. Et ensuite, eh bien, les fondements de ces normes-là, on les trouve toujours.
Bien. Et c'est pour ça que certains s'insurgent contre justement ce Shafi'i aussi. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci infiniment. Merci Adrien Dejarmy d'être venu nous parler de ces figures du prophète de l'islam et comment elles étaient présentées tout au long de l'histoire. Et merci de nous avoir édifiés de tout cela. Et chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.